pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà. Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Avec Serge Mariani.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Jazz Interview avec Serge Mariani. Et pour cette première émission de rentrée 2020, tout d'abord, bonne année Serge.
Mais oui, bonne année, c'est vrai. Ouais.
Ravi de te retrouver.
Et réciproquement, merci.
Alors, le premier invité 2020,
on va le découvrir ouais. Dans quelques instants, le temps que je déroule un célèbre texte d'ouverture. Et c'est parti. S'il existe bien toujours un jazz pour salle de bal, je n'ai pas dit pour salle de bain, mais qui sait, avec ces big bands qui font swinguer les amateurs de l'indie hop endiablé, à quoi peut donc ressembler un jazz de chambre? La musique classique dite de chambre répond à des critères plutôt précis, petite formation de cordes, bois, cuivre ou percussions. Oui, je cite Wikipédia sans vergogne. Le quatuor à cordes mené par le violon ou le quintet avant par la flûte traversière en sont les plus emblématiques. Et c'est l'âge baroque dont on revisite les styles en se passionnant pour cette musique. Je suis très heureux que ce mot baroque vienne presque naturellement ici car c'est exactement ce que j'ai ressenti dès la première écoute des compositions interprétées par un étrange quartet portant le nom de Maya Ka, un nom qui veut dire phare en finnois. Écoutez de la musique baroque. Quelle préciosité capricieuse d'aller chercher dans l'une des langues les plus difficiles le nom d'un des groupes avec lequel on va jouer cette musique plutôt savante et pour laquelle les professionnels de l'étiquette ont trouvé l'appellation « jazz de chambre ». En réalité, c'est le simple fait d'une tournée dans ce pays qui a inspiré ce nom à son initiateur, un musicien qui ne se soucie pas d'étiquette mais avant tout de savoir si mélodie et humanité donnent corps à sa musique et que le voyage d'un monde sonore à un autre motive sans doute à s'installer devant le clavier de son piano et parmi les instrumentistes qui l'entourent. Bonjour Jean-Marie Machado.
Bonjour.
Vous allez bien?
Je vais très très bien.
Cette toute jeune année.
Voilà, on est parti pour une nouvelle année pleine de musique.
Oui, qui commence très bientôt avec aujourd'hui avec un concert.
Oui, ce soir au Pan Piper.
Ce lundi au Pan Piper. Oui. Voilà. Alors il y a des écoles. Hein, je profite de cette occasion sur la prononciation du nom de la salle.
Ah,
vous
d'accord.
Vous dites comment?
Pan Piper.
Voilà, d'accord, voilà. Ok. Moi, je dis Pan Piper, mais on est pas loin.
On n'est pas loin, d'accord.
Il y a d'autres versions voilà. Aussi. Enfin, en tout cas, c'est la même salle.
Voilà.
Et on en reparlera au fil de cette émission, bien sûr. Vous y proposerez au public un triple programme. Hein. Ça s'appelle Puissance 3, hein, si je ne me trompe pas.
Alors, moi, je ne connais pas tous les titres qui sont donnés à cette soirée. En tout cas, dans ma tête, ça, c'est tout simplement une déambulation pour faire voir de façon un petit peu peut-être de la grande intimité du solo, ensuite en ouvrant à une première personnalité qui est Didier Turserier, l'accordéon, mon univers musical à cet instrument, à cette personne, et puis ensuite en quartet pour montrer carrément comment se propulse après cette même musique du solo avec plusieurs invités, donc le percussionniste Kevan Chemerani, le violoncelliste Vincent Segal et le saxophoniste Jean-Charles Richard. Une musique qui ne vient pas du tout du Grand Nord, même si le titre est finnois, mais parce qu'en fait, lors de cette tournée, j'ai été vraiment charmé par la façon de parler de cette population, et ce mot m'a paru très beau, et naturellement, comme ça veut dire le phare, la lumière, cette lumière qui nous permet d'aller au bon endroit, qui nous permet de ne pas nous fracasser sur les rochers, ben, ça m'a un peu fait penser à cette musique qui est en fait toujours comme un guide dans une vie, une musique, maintenant ma vie commence à être assez longue, et cette musique elle est comme un guide, elle a toujours été là pour donner une certaine lumière, et me dire bah, attention c'est plutôt par là qu'il faut aller, voilà, ce qui m'a amené justement à faire un choix très très, très très conscient et très très heureux sur ma façon de jouer, d'être très acoustique, de me rapprocher de plus en plus d'une idée chambriste
de
la musique, mais qui dit chambriste ne dit pas qu'on va jouer ni du Chopin ni du Beethoven. C'est bien aujourd'hui la musique de chambre, elle n'appartient pas à une époque. Hein. La musique de chambre, elle est toujours vivante. Alors de chambre, c'est marrant comme nom, mais ça veut dire quand on se réunit autour d'un piano, d'une guitare, d'une harpe. Sauf que les musiciens ont évolué, c'est-à-dire depuis Beethoven et Chopin.
Oui, depuis le 17e,
il y a eu plein de musiques, et le musicien aujourd'hui ne peut pas ignorer toutes ces musiques qu'il y a eu. Alors, soit on joue du répertoire, et on joue donc de la musique de chambre de répertoire, soit la musique de chambre a le droit d'être jouée par des gens d'aujourd'hui qui ont une autre façon de l'approcher, tout simplement. Voilà, il faut peut-être ajouter musique de chambre jazz d'aujourd'hui.
Oui, voilà. Donc, cette appellation étiquette, comme on le disait en ouverture de cette émission, ne vous gêne pas particulièrement. Au contraire, vous l'assumez totalement, ce jazz de chambre ou musique de... Parce que jazz de chambre, ça déjà... Jazz, c'est déjà presque une étiquette, même si aujourd'hui, le jazz est vraiment un sens, enfin, des dimensions vraiment importantes et larges et multiples. Alors, vous y retrouvez.
Je m'y retrouve. Il faut faire juste une petite mise en garde, parce que le jazz de chambre a eu aussi une période, une sorte d'apogée avec des grands solistes qui jouaient avec des nappes de cordes. Bon, moi, je me sens pas trop dans ce jazz de chambre-là. Moi, je tease vraiment avec des univers et des musiciens très différents, une musique d'aujourd'hui où tout le monde est engagé en tant que soliste dans le jeu. Hein. On n'accompagne pas le soliste de jazz. Quoi. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Donc c'est juste pour faire une petite mise en garde. Maintenant, après, il y a eu depuis de très longues années ce qu'on a appelé le troisième chemin, le troisième mouvement aux États-Unis. Hein, c'est-à-dire ces musiques qui se mélangent entre le classique et le jazz. Je dirais même qu'aujourd'hui, on peut ajouter les musiques du monde.
Absolument.
Voire même pour certains musiciens l'électronique, voire même rap pour d'autres musiciens.
Totalement, oui.
Et en fin de compte, aujourd'hui, ce que veut dire peut-être ce langage-là, moi c'est plutôt vers un côté chambriste que ça se dessine, mais ça veut dire que le musicien aujourd'hui est libre d'intégrer complètement toutes ses passions artistiques et qui crée à chaque fois une nouvelle musique, une autre musique, et qui donne à chaque fois une identité très actuelle en fait à une musique.
Voilà. Parce qu'il est vrai que vous pratiquez peu, en tout cas là, dans tout ce que moi j'ai pu entendre et ce qui sera a priori joué au Pan Piper, la formation classique de jazz, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les formations trio ou quartet avec le piano, ça c'est votre instrument, et puis une batterie, pardon, et puis une contrebasse ou une basse, et puis éventuellement, alors ensuite, il y a un saxophone quand même dans Mayaka, mais sinon, vous allez chercher des instruments qui sont peu habituels dans ces musiques-là.
Alors, il y a deux choses. L'idiome jazz contrebasse-batterie propulse et donne à cette musique depuis longtemps une identité qui est fantastique. C'est-à-dire, on ne va pas aujourd'hui dire que parce que j'ai choisi de ne pas mettre cet idiome, tout ça s'écroule et ça ne veut plus rien dire. Pas du tout. Moi, je ne suis pas du genre à détruire le passé. Et je pense que ça a donné les plus belles plages de musique au monde, cet idiome. C'est-à-dire, vraiment, moi, je reste passionné. Je l'ai fait avec les frères Moutin au début de ma route. Je l'ai refait en plus un peu plus tard avec Jean-Philippe Viré, Jacques Mailleux pour le trio Time, au moment de l'hommage aux Sœurs de Sang, Amalia Rodriguez, Billie Holiday. Donc, j'ai pratiqué cette musique de jazz avec cet idiome avec beaucoup de bonheur et de joie. Je me suis rendu compte avec le temps, simplement, que mon jeu de piano était de plus en plus une sorte de perle rare et importante, où la sonorité, pour moi, est la façon de jouer musculairement, m'éloigner du monde de la batterie et de la contrebasse, parce que souvent on amplifie, et du coup on détériore souvent le son du piano, quand on amplifie trop. Donc en fait, j'ai quelque part sacrifié cet idiome pour la pureté du son.
D'accord.
Ça a été un choix un peu douloureux en même temps, et après je me suis rendu compte qu'en même temps, d'autres façons de jouer avec des percussions, par exemple... les percussions à peau, comme là Kevan Chemerani avec le zarbe, ou alors d'autres musiciens qui jouent de l'arbouka, etc. Les tablas, ça m'allait bien au niveau justement musculaire de piano, et on retrouvait la même chose que dans les autres musiques, avec batterie, mais c'était une texture sonore qui était plus adaptée. Et les graves, alors là, vous imaginez bien que dans Mayaka, il y a un violoncelle et un sax baryton aussi parfois. Puis il y a les graves du piano, parce que moi j'utilise beaucoup ma main gauche. J'utilise le piano sur tout le registre.
Voilà,
Donc en fin de compte, ça permet de retrouver en fin de compte l'idiome, mais sous une autre forme, et de proposer du coup une couleur qui me convient mieux. Voilà.
Alors on va justement commencer par écouter peut-être le piano tout seul, puisque dans ce programme au Pan Piper, il y aura... sans doute en première partie, j'imagine, en tout cas le premier volet de cette trilogie musicale que vous allez proposer, du solo. Donc vous seul au piano, et par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, on va sans doute retrouver beaucoup de choses dans le morceau, la composition que vous nous avez proposé d'écouter dans ce solo, Irmas de Sangue. Voilà, on l'écoute et on se retrouve juste après pour la suite de cette jazz interview avec vous, Jean-Marie Machado.
Thank you.
Irmas de Sangue, un piano solo de notre invité Jean-Marie Machado. On rappelle d'abord, Jean-Marie, Irmas de Sangue, qu'est-ce que ça signifie? Je ne suis pas très hispanophone, moi.
Alors, en portugais...
Sangue, je crois que c'est le sang. Non
voilà, bon. En portugais, ça veut dire les sœurs de sang. Et c'est pas rien, parce que frères de sang, sœurs de sang, enfin, quand vous savez comment c'est, quand on fait un pacte comme ça... Avec le sang,
ah oui,
savez,
c'est
on
vrai,
fait l'entaille
oui.
Et puis on mélange les sangs.
Voilà. Oui, c'est vrai.
Donc pour moi, ça a naturellement une grande puissance, une image très forte et très belle. Naturellement, c'est les grandes amitiés, c'est les bon. Et surtout, ça veut dire que à l'époque, quand j'ai fait ce projet, il y avait d'un côté pour moi la saudade d'Amalia Rodriguez, mm-hmm. et il y avait de l'autre côté le blues de Billie Holiday.
D'accord.
Et pour moi, c'est la même musique. Donc moi, j'ai tout le long de ma route de musicien, je n'ai pas arrêté de dire qu'il ne faut pas séparer ce qui est semblable.
Mm-hmm.
Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre tous les mots que vous voudrez pour vous efforcer de dire qu'il y a le jazz de Billie Holiday d'un côté et la musique du monde d'Amalia Rodriguez de l'autre. Pour moi, c'est un mensonge.
Mm.
C'est un mensonge qui convient bien aux gens
voilà.
qui ont besoin
de classer, comme
classer,
on disait tout à l'heure, d'étiqueter.
Mais il ne faut pas que les gens s'y trompent. C'est la même chose. Et moi, je vais même aller plus loin. On va rajouter un prélude ou un nocturne de Chopin au milieu. Mais c'est pareil.
D'accord.
Et puis on peut continuer très loin.
Mmh, mmh.
C'est-à-dire qu'une mélopée mérovingienne,
carrément,
etc.
Oui.
C'est-à-dire
bien
qu'en
sûr,
fait, si
sûr.
Vous voulez, il ne faut pas se leurrer. Tout ça, c'est un sentiment humain
voilà.
qui est de la même espèce, qui est simplement traduite par une personne qui a eu les outils du jazz à sa disposition, les outils de la guitare portugaise et du fado pour une autre, etc. Mmh, etc. Mmh. Et on ferait mieux de parler de catégories de sentiments humains universels plutôt que de nous bassiner pendant des heures avec le jazz.
Oui, avec des styles musicaux, les gens. Oui, je comprends.
Voilà. Mmh. Donc ça parlerait à tout le monde, ça ferait gagner beaucoup de temps si vous avez envie d'une certaine chose. Bon, voilà, on dit bien ça groove, ça swing pour une musique qui bouge.
Voilà.
D'un coup, on commence à dire, à compliquer les choses. Après, voilà, bon. Tout simplement pour dire qu'à un moment donné, ces musiques-là, pour moi, c'était important de les réunir à travers ce projet Sœurs de Sang, qui a fait l'objet d'un double album, en plus trio de jazz et solo, avec contrebasse batterie, comme on disait tout à l'heure.
Ouais.
Et puis, solo de piano. Voilà, donc ça, c'est une bonne façon d'entrer en matière, parce que ça représente bien mon univers, c'est-à-dire cette envie toujours de rapprocher, de réconcilier plutôt que de séparer en permanence les choses. Ce qui est une petite manie qui est très pratique pour des tas de choses, mais pas pour nous artistes.
c'est vrai. Et donc c'est la mélodie, hein, qui le chant, parce que finalement, je crois que on y revient là avec ce que vous venez de dire, tout se rassemble, tout se retrouve, tout se réunit autour de ce que l'on ressent du chant de l'instrument, des instruments, que ce soit votre piano ou tous les autres instrumentistes qui vont intervenir avec vous. Voilà, c'est là que tout le monde se retrouve, sur le mélodieux, enfin sur la mélodie.
Oui, alors moi je suis très attaché à la mélodie, d'abord pour une raison très simple, c'est que j'ai écouté les plus grands mélodistes, hein, que ce soit Bernstein ou Michel Legrand ou qui vous voulez, et que comme je vous l'ai dit, je suis pas du genre à casser le passé, au contraire. Je me suis dit, ces gens-là sont incroyables, et j'ai vite compris qu'une des choses les plus dures à réaliser en tant que musicien, c'est des belles mélodies. Voilà, ça paraît tout bête à dire,
mais
c'est des heures de travail pour sortir une mélodie. Après, il y a beaucoup d'autres choses.
Plus elle est simple, souvent, plus elle
ouais.
a été... Ou alors, voilà. c'est un coup de génie, bon, ça arrive après, aussi, mais c'est
voilà.
beaucoup de travail avant.
Et en fin de compte, cette mélodie, qu'est-ce qu'elle a? Ben, c'est-à-dire, elle a réussi à dialoguer avec les vivants avec qui on partage... notre temps de passage sur Terre, et donc dialoguer avec les vivants, je crois que c'est une des choses les plus belles qu'on puisse aujourd'hui réaliser, puisqu'on voit bien qu'on est dans une société qui ne se parle plus, qui ne rentre plus en contact, qu'il y a des conflits partout, que ça pète dans tous les sens, et la mélodie, en fin de compte, peut-être devient une sorte de vecteur, un peu de rassemblement. Donc j'ai choisi, alors que j'étais parti aussi sur une route très exigeante au niveau complexité musicale, j'ai choisi de revenir à cette force mélodique, et que j'ai toujours présenté aussi dans des univers où les gens vont avoir une route aussi à faire, hein. C'est-à-dire que c'est pas simplement mélodie édulcorée, facile,
bien sûr.
Qu'on écoute la première fois, qu'on retient, puis voilà, c'est bouclé. Non, la mélodie comme vecteur, comme...
Oui, ça raconte, il faut raconter
raconte,
quelque chose,
voilà.
bien
et
sûr.
Et puis ça touche à l'émotion, mais il se passe plein de choses avec, ça, avec ce monde mélodique. Voilà, donc ça c'est sûr qu'il y aura beaucoup de mélodies ce soir.
Et pour interpréter, créer et jouer et faire partager à l'auditoire ces mélodies, vous imaginez aussi des combinaisons, si je puis dire, d'instruments plutôt, moi je trouve, original. Hein. C'est vrai qu'on assiste beaucoup à des mariages comme ça, piano, batterie, piano ceci, ou batterie cela, etc. Et vous, vous avez rapproché pour votre duo avec Didier Itursari, j'espère que je prononce bien son nom, votre piano, l'instrument, votre, ouais. Voilà, et son accordéon. Voilà. Et ça, ça paraît, enfin, je sais pas, moi, ça m'a surpris sur le coup, parce que je me dis, ah oui, mais c'est vrai, l'accordéon, on imagine, c'est ça, parce que c'est bon, le piano à bretelles, hein, on va pas broder là-dessus, si je puis dire. Mais là, on a deux instruments dont le son et le jeu, c'est très compliqué, l'accordéon, on m'a dit aussi, hein, le bandoneon aussi, enfin, j'ai des amis qui en jouent un peu. et ça, c'était, comment ça vous est venu, cette idée de mariage, je dirais le mot?
Alors, d'abord, moi, j'ai découvert vraiment ce mariage de l'accordéon dans la musique d'aujourd'hui de jazz avec Claude Barthélémy et l'ONJ à l'époque.
Ah oui.
Qui m'a paru vraiment être une trouvaille très intelligente de proposer cet instrument dans une forme orchestrale de jazz. Mais bien avant, j'étais déjà très fan de la musique de tango. Où se côtoient naturellement bandoneon et piano et créent un univers sonore tout à fait particulier. Et cette identité vient de là. Puis après, on la rencontre dans plein de musiques d'aujourd'hui. Et elle m'avait toujours intéressé. Quand j'ai créé l'orchestre d'Anzas, Didier Itursari est rentré dans l'orchestre. Et pendant 10 ans, on a travaillé ensemble, côte à côte dans l'orchestre, à combiner nos sonorités pour que ça marche bien avec les autres, et surtout pour que ces deux instruments qui sont et rythmiques et harmoniques, etc., etc., se combinent parfaitement pour être un plus et non pas une gêne. Voilà. Donc au bout de ces quelques années de travail ensemble, on s'est dit, ben, pourquoi pas sortir cette identité de l'orchestre et en faire un vrai répertoire, voilà, ce qui nous a bien réussi, parce que le duo a beaucoup, beaucoup joué, et puis voilà, les gens ont beaucoup apprécié ce disque. Voilà.
Alors, on l'entendra, comme on l'a déjà dit, au Pan Piper, avec la soirée de la scène SACEM Jazz. Et ben, Jean-Marie, on va peut-être refaire une nouvelle pause, en écoutant justement une composition pour le duo. Vous donc au piano et Didier Itursari à l'accordéon, et ça s'appelle Aspirer la lumière, et on se retrouve juste après pour la dernière séquence de cette jazz interview.
Thank you.
Le duo de Jean-Marie Machado au piano et de Didier Itursari à l'accordéon, c'est ce que nous venons d'entendre avec cette composition intitulée « Aspirer la lumière ». C'est un drôle de titre, hein. C'est vrai qu'après on va écouter un peu Maya K qui veut dire « phare » et là on est un peu aussi avec la lumière encore. Oui. Pourquoi qu'est-ce que, c'est toujours les titres, moi les mots ça m'intrigue toujours, j'aime beaucoup. C'est, pourquoi « Aspirer la lumière » Pourquoi vous avez pensé à cet intitulé-là
particulièrement ? Parce qu'en fait tout le monde a ressenti déjà... quand on se promène et qu'il y a un retour de soleil, quand on n'a pas vu le soleil depuis longtemps, quelque chose comme ça, c'est cette espèce de façon qu'on a d'aspirer la lumière du soleil, c'est-à-dire on a l'impression que le corps entier va prendre en soi toute la luminosité.
C'est pas faux. Hein, c'est...
Voilà, donc en fait, c'est une façon de... Oui, c'est ça, c'est une façon de rendre hommage à cette sensation, et j'aime bien le mot aspirer là-dessus, parce que naturellement, on va pas aspirer, ça ne s'aspire pas de la lumière, mais on a vraiment l'impression qu'on se nourrit de cette luminosité.
Exactement.
Ouais, ça vient de là.
Ouais, très bien. Bon, alors, donc là, on a déjà entendu depuis le début de cette émission, vous solo. Maintenant, là, on vient d'entendre le duo. On va se dire au revoir dans quelques minutes avec le quartet Maya K, donc, comme je viens de le dire. Et donc, ces trois formations, ces trois univers musicaux, parce qu'il ne s'agit pas du tout de, hein, on a bien compris, sinon on ne peut rien insister, le fait que vous n'interprétez pas les mêmes choses avec des formations différentes pour se dire, ah bah tiens, là on va entendre un saxophone en plus ou je ne sais pas quoi. Ce sont vraiment des univers musicaux, évidemment qui communiquent bien sûr, mais qui sont bien identifiés et dans lesquels vous faites des choses composées et jouées différemment. Voilà, on voyage de l'un à l'autre, ce n'est pas du tout...
Oui, alors, c'est à la demande donc de Lilian Goldstein de la SACEM.
Oui, pour la soirée Open Piper.
Qui a voulu, d'abord parce qu'il présente des artistes comme ça régulièrement Open Piper.
Bien sûr.
Et il donne une sorte de carte blanche où il aime bien que l'artiste présente différentes facettes de son langage, de son travail. Naturellement, un artiste, malgré toutes les facettes, quand vous prenez un écrivain, hein, vous reconnaissez une plume. Hein.
C'est-à-dire oui, normalement.
Fait, d'un projet à l'autre, vous allez reconnaître une couleur, une esthétique qui est vraiment là.
Oui.
C'est juste qu'effectivement, ce sont des programmes tout à fait différents. Aucune fois dans la soirée sera joué le même morceau. Mm-hmm. Ça aurait pu être rigolo d'ailleurs.
Hein. Oui, c'est mais une autre.
Ça aurait pu être une autre approche, mais là pas du tout. Donc c'est pas du tout ce qui a été choisi. Mm-hmm. C'est vraiment, il va y avoir tout un monde avec la première partie en solo. Alors naturellement, rassurons le public. Hein, il s'agit pas des parties très longues. À chaque fois qu'ils n'en finissent plus. Hein. C'est-à-dire qu'on a une partie normale en solo, une petite partie courte d'introduction, une partie un peu plus longue en duo et une partie encore un peu plus longue en quartet, puisque bien plus il y a d'individus, plus il y a de la place pour chacun pour s'exprimer. Voilà.
Bien sûr.
Donc ça revient à une sorte de grand concert, en fait. Hein. Ça ne sera pas un concert triple.
Oui, voilà. Oui, d'accord. Oui,
et avec des programmes à chaque fois très, très différents.
Et ça me permet aussi de faire une parenthèse là-dessus, c'est on a peu parlé de l'improvisation, la place de l'improvisation dans votre musique et dans sa interprétation sur scène.
Alors je vais peut-être pas me faire encore beaucoup d'amis. Il y a énormément de place pour l'improvisation, il y a énormément de place pour l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est encore une fois une fausse idée. C'est-à-dire parler de musique improvisée, de musique écrite, pour moi ça veut rien dire. C'est-à-dire que quand je joue de la musique écrite et que je la joue en étant complètement que ma musique est intériorisée à tel point que quand je la redonne, je l'improvise en fait. Je n'ai pas l'impression de recracher une musique écrite quelle que soit, pas du tout. Je réinvente cette musique sur l'instant. De la même façon, j'ai un tel souci de la forme et de l'exigence de la forme que quand j'improvise, beaucoup de gens pensent des fois que je suis en train de jouer de musique écrite. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout de problème avec ça. Récemment, on a fait avec mon ami Christophe Marguet à la batterie, justement, mais sans la contrebasse, et un trio de danseurs de la compagnie des frères Benaïm, on a fait une pièce totalement improvisée. Voilà. Et naturellement, quand on écoute les rushs, on voit les vidéos, franchement, allez dire que la musique
c'est de l'improvisation.
Est improvisée. C'est d'abord, qu'est-ce que ça veut dire voir que la musique est improvisée ou pas? Vous savez très bien que dans le jazz, John Coltrane passait des heures enfermé chez lui à repasser ses patterns dans tous les sens. Moi, j'ai travaillé avec les plus grands saxophonistes, avec Monsieur Dave Lindman, que j'ai vu travailler pendant des heures des phrases, tout ça, et je les ai entendues sur scène à côté de lui, des phrases qu'il a travaillées dans les loges quelques minutes avant. C'est-à-dire, pour moi, musique improvisée, musique écrite, c'est un leurre. Mmh, voilà, alors je ne vais pas me faire beaucoup d'amis.
Non, mais c'est vrai, c'est bien de le rappeler.
En attendant, c'est un mensonge.
Ouais.
Voilà, encore un mensonge.
Ouais.
Voilà, c'est, y a la musique.
Ouais. Et d'ailleurs, vous avez dit, j'ai relevé ça dans une interview que vous aviez donnée il y a quelques temps, là, que j'ai un peu réduite, mais le sens mélodique est un pivot dans mon écriture. Ça, on en a déjà un petit peu parlé. Les plus grands musiciens de Free, notamment, sont aussi de formidables mélodistes. Là encore, il ne faut pas se limiter. J'ai toujours aimé cette liberté qu'incarne autant un Bach, Jean-Sébastien Bach, qu'un Ornette Coleman.
Ouais.
On retrouve ce que vous venez de dire.
Voilà, c'est-à-dire que ce sont tous des artisans qui travaillent de longues heures de musique et qui, naturellement, pour certains, elles sont mémorisées. Mais vous savez, j'ai appris la musique baroque, moi, vous parlez du baroque, avec une grande claveciniste s'appelait Béatrice Berstel, qui a disparu. Et je l'ai vue improviser du Bach.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait...
Alors je vais quelqu'un
improviser. Qu'est-ce que ça veut dire jouer quand vous voyez un musicien baroque improviser de la musique baroque, vous avez l'impression qu'il est en train de jouer une partition d'un grand musicien baroque. Mais en fait, il improvise comme nous avec le jazz, c'est-à-dire qu'en fait tout ça, encore une fois, ça favorise la mise en boîte des choses. C'est très pratique pour certains, mais nous artistes, ça nous concerne pas. Voilà, il faut s'éloigner un peu de toutes ces fausses idées. Nous, on est pour la musique, et la musique, pour moi, elle englobe tout. D'ailleurs, ça pose un vrai problème, c'est parce que quand on est dans les centres d'enseignement, on vous dit on va vous apprendre la musique sérieuse écrite. Or, on vous apprend que la moitié de la musique, puisqu'à aucun moment on vous dit qu'il faut improviser. Vous êtes libre d'improviser. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais,
donc ça va. Ce problème va très très loin. C'est-à-dire que dans nos plus hauts lieux d'apprentissage, heureusement, ça a beaucoup changé ces dernières années, mais c'est pas encore réglé. Il faudrait vraiment que les deux matières soient apprises dans toutes les écoles. Qu'on soit dans une classe de musique improvisée libre quelque part, ou qu'on soit dans une classe de musique écrite, il faudrait compléter. C'est-à-dire qu'il faudrait tout de suite dire aux musiciens, bon, là, tu as appris à jouer un petit morceau de Rameau. La semaine prochaine, tu m'inventes un petit truc qui ressemble à ça, puis on va travailler ensemble. Mais par contre, il faut commencer par l'invention. Il faut, avant d'improviser librement avec une forme, etc., il faut déjà apprendre à inventer un petit morceau.
Voilà. Ouais.
Quand on invente, on écrit, justement pour se rappeler. Et puis après, une fois qu'on a rejoué son invention... Bah, quand on a fait 1000 inventions, on est capable d'en faire une directement, sans passer par le papier.
Ouais, ouais. Alors, comme je disais aussi, on va se dire au revoir tout à l'heure avec une composition pour le quartet Mayaka avec lequel vous jouerez, donc Open Piper. Moi, quand j'ai écouté cette musique, c'est vrai qu'elle elle sonne, elle part dans des directions assez incroyables. Il y a des moments où on a vraiment ça de musique classique indienne, par exemple. Le violoncelle parfois sonne comme un sitar, enfin c'est très très surprenant. Et la flûte aussi, elle part comme on entend la musique indienne, quoi. C'est étonnant. Ça c'est dans l'invention, c'est dans c'est voulu, vous en parlez avant.
Alors en fait, dans la pièce qu'on va écouter qui s'appelle Les Pierres Noires, qui est le nom d'un phare breton très connu, pas le gâteau, le phare. Hein, le phare.
J'avais pas pensé encore.
Parce que moi je suis très gourmand, donc.
Le phare finnois. Alors.
Voilà, le phare qui donne de la lumière et pas des choses sucrées. Donc en fait, il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a une musique écrite qui est jouée par le piano de A à Z. Il y a une musique semi-écrite qui est jouée par le violoncelle. Il y a une musique un quart écrite et trois quarts improvisée par le saxophoniste. Et il y a une musique totalement improvisée par le percussionniste.
D'accord.
Donc vous avez tous les mondes qui sont représentés. Et dedans, effectivement, il y a beaucoup de couleurs. Alors moi, les couleurs principales, c'est d'abord les couleurs latines. Moi, je citerai avec beaucoup de joie des gens comme Gismonti, Vasconcelos, avec qui j'ai eu la chance de travailler, ou par exemple les grands compositeurs de musique classique pour brésilienne comme Villa-Lobos par exemple, puis les grands impressionnistes espagnols, De Falla, etc.
Voilà, que vous avez interprété.
Mais aussi, effectivement, j'ai été très influencé par Shakti à l'époque de McLaughlin et toute cette période-là,
bien sûr
un trilogue Gourtou. Et donc, il est resté dans cette musique, une espèce de musique ethnique qui est entre la musique indienne, latine, avec tout le reste de la culture qui a été amenée d'autres univers, voilà. Et ça vous donne ce que vous avez ressenti.
Oui, absolument. Oui, on ressent ça tout de suite, très vite. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin d'avoir une culture particulière, je pense. Ça parle immédiatement, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, quoi. La mélodie est là, les mélodies se développent, se répondent, dialoguent, etc. Et ça parle tout de suite, quoi. Voilà, on n'est pas perdu, il n'y a aucune raison. Donc, on entendra également ces créations de Mayaka lors lors de ce concert. Donc on va, avant de se dire au revoir Jean-Marie Machado, rappeler que c'est au Pan Piper, lundi 13 janvier, à partir de 20h je crois.
Oui.
Donc une soirée scène SACEM jazz.
Voilà.
Je l'ai redit.
Très bien.
D'autres précisions
Non, venez nombreux et bravez les problèmes de grève, on vous attend.
Ouais, bien sûr, oui. Bien sûr, absolument. Donc voilà, merci Jean-Marie Machado d'avoir été l'invité de cette jazz interview.
Merci à vous.
À très bientôt, notamment au Pan Piper. Sinon, ben, les disques existent, bien entendu, on peut trouver votre musique. Comme pour toutes les musiques maintenant, de multiples façons. Et on se dit au revoir en écoutant ce titre, Les Pierres Noires du quartet Mayaka. Merci Jean-Marie Machado.
Merci.